Et pour poursuivre cette émission, nous retrouvons Ludovine de la Rochère. Ludovine de la Rochère, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors, je rappelle que vous êtes présidente du syndicat de la famille et aujourd'hui, vous allez nous parler un petit peu, eh bien, comme d'habitude, de la famille, mais commençons au niveau européen.
Oui, absolument. Alors, de fait, pour ce qui concerne les enjeux famille et société, chaque semaine apporte son lot d'événements assez inimaginables. Mais ils ne font guère la une des médias et c'est bien regrettable. En effet, ils sont le plus souvent fondamentaux, car ils mettent en cause la nature et la dignité de l'être humain. Cela ne veut pas dire, je le précise, que ce sont toujours de mauvaises nouvelles. Au contraire, puisque nous travaillons à ce qu'il y ait aussi des bonnes nouvelles. Alors, deux événements tout récents concernent justement les identités sexuelles et la procréation. Vous voyez, on est dans le fondamental. Le premier est un arrêt rendu le 13 mars, par la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE. Il impose aux États membres, pour les documents officiels d'identité, de mentionner comme sexe ce que déclare la personne, c'est-à-dire son ressenti. Un homme qui se sent femme, par exemple, devra être déclaré femme sur sa carte d'identité et son passeport. Avec tout ce que cela implique pour les compétitions sportives, les prisons, etc., mais surtout la filiation, et donc les enfants.
Mais alors, comment est-ce que la CJUE justifie cette décision ?
Alors, le prétexte sont les règles européennes RGPD pour toute base de données. Celles-ci, ces règles, sont principalement l'exactitude des données, la protection de la vie privée et le droit à la rectification. Donc, d'après la Cour, l'exactitude des données, c'est-à-dire la réalité, serait à prendre dans son contexte et non en tant que telle. Cela signifie qu'elle renvoie au ressenti de la personne à ce qu'elle vit. Ainsi, sa réalité, la réalité que ressent la personne, remplace la réalité, donc l'exactitude des données. Et comme la vie privée doit être respectée et que c'est très personnel, et que l'intéressé a le droit de faire rectifier ce qui le concerne, eh bien les États devraient donc modifier à sa demande la base de données de l'État civil et par suite fournir les documents d'identité tels que souhaités, et donc cela pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Cet arrêt est scandaleux puisqu'il est évidemment purement idéologique. Le ressenti par définition, subjectif et même potentiellement mouvant, doit être pris en compte comme si c'était une réalité objective, constatable et stable. La Cour a même refusé que le fait d'avoir été opéré soit une condition au changement de sexe à l'état civil, comme c'est le cas dans certains pays, alors que cela permet de poser tout de même une limite à la volonté de l'individu. C'est en outre dans l'intérêt de l'enfant, car cela évite qu'un homme soi-disant enceint, c'est-à-dire une femme, soit ensuite déclaré père de l'enfant. Et il en va de même, par conséquent, de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est bien en cause. Mais de tout cela, la CJUE se fiche bien. Cet arrêt est inacceptable aussi parce qu'il ne respecte pas la souveraineté des États membres. Il est contraire au traité de fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, dont il ressort que la famille et les sujets de société ne sont pas de la compétence de l'Union européenne. Finalement, une telle décision caractérise une dérive de cette Cour de justice et plus largement une dérive de l'Union européenne.
Alors j'espère que la deuxième information que vous avez est plus encourageante que la première. Vous nous disiez qu'elle concerne la procréation.
Oui, heureusement, c'est en l'occurrence une bonne nouvelle survenue par ailleurs qui concerne la pratique des mères porteuses, autre sujet qui touche à la nature humaine et au statut de l'être humain. Il s'agit donc cette fois-ci de la conférence de La Haye. Alors contrairement aux apparences, ce n'est pas une conférence mais une institution internationale. Elle compte même 90 États membres. C'est elle, par exemple, qui a élaboré la Convention internationale de 1993 pour la protection de l'enfant dans le cadre des adoptions internationales.
C'est donc une institution fiable et sérieuse.
Alors, ça l'était jusqu'il y a quelques années. En effet, la conférence de La Haye a mis en place en 2011 un groupe de travail dénommé « filiation maternité de substitution », c'est-à-dire « gestation pour autrui ». Et ce groupe de travail était chargé d'élaborer un instrument juridique international, en fait une sorte de convention, qui permettrait aux commanditaires d'enfants par GPA d'être considérés comme leurs parents par tous ces États membres. ce qui revient à valider le principe de la GPA et même à faciliter le recours à cette pratique. Autant dire que les militants de la GPA n'auraient même plus vraiment besoin ensuite d'obtenir sa légalisation officielle dans l'ensemble des pays. Alors le syndicat de la famille a été auditionné à l'AE à ce sujet et reçu à plusieurs reprises au ministère de la Justice, en France donc. Car toute honte bue, la France a fait partie de ce groupe de travail depuis sa création et jusqu'à maintenant. Elle y était représentée par un conseiller du ministère de la Justice. Et cela en dépit des affirmations d'Emmanuel Macron suivant laquelle la GPA était sa ligne rouge. Alors la mission de ce groupe de travail était assez complexe du fait des différences de législation entre les 90 États membres. Mais en amont de ces questions de droit civil, ce sont avant tout, bien sûr, les aspects humains et éthiques qui devraient être considérés. Ce à quoi la conférence de La Haye répondait que ce n'était pas le sujet. Ce n'était pas son sujet. Ses dirigeants et les membres du groupe de travail refusaient donc de s'interroger sur une pratique qu'ils s'apprêtaient à faciliter. Autrement dit, que la GPA génère un trafic international d'enfants ne les concernait pas. Qu'elle consiste à exploiter des femmes ne les faisait pas hésiter. Que des agences et commanditaires disposent à leur guise d'êtres humains n'était pas leur affaire. Que les liens mère-enfant soient tenus pour rien ne les regardait pas. Stupéfiant. Et pire, parce qu'elle voulait absolument parvenir à son but, la conférence de La Haye avait prolongé plusieurs fois le mandat de ce groupe de travail, celui-ci peinant donc à aboutir. Finalement, sous la pression constante et convergente d'associations de divers pays qui avaient alerté leur gouvernement, à laquelle s'est ajoutée la prise de position d'une rapporteure spéciale de l'ONU sur la GPA, la conférence de La Haye a annoncé mi-mars qu'elle mettait fin à ses travaux.
C'est donc une très bonne nouvelle.
Oui, alors à double titre. D'abord parce qu'on a évité une convention internationale qui aurait facilité ce trafic international d'êtres humains et donc augmenté concrètement et de manière très importante le nombre de femmes exploitées et le nombre d'enfants séparés de leur mère et vendus à des tiers. Mais aussi parce que de ce fait, le regard de notre société sur la dignité humaine, sur le statut de l'être humain, ne connaîtra pas, en tout cas pas du fait de la conférence de La Haye, ne connaîtra pas un recul majeur en considérant que l'on peut réduire la femme au statut d'incubatrice, l'enfant à celui d'un bien et la maternité à une prestation. Ainsi, vous le constatez, ces combats ont parfois des issues heureuses. Et il est tout de même bon de le savoir. Mais vous pouvez aussi le constater, ces combats restent incessants. Parce que si la conférence de La Haye a renoncé, une autre institution internationale, et je pense à l'Union européenne, tentera vraisemblablement à son tour, demain ou après-demain, d'aller en ce sens. Et c'est bien pourquoi ces combats sont à mener à tous les niveaux, national, européen et international. C'est donc ce que fait le syndicat de la famille, qui est d'ailleurs organisme consultatif à l'ONU.
Merci beaucoup Ludovine de la Rochère, et on vous dit à la semaine prochaine.